sa blanche cornette, si le chrétien succombe à son charme insidieux, le païen le plus sûr, l'athée le plus honnête, se laisserait aller parfois à croire en Dieu. Et les enfants de cœur font tinter leurs sonnettes. Il paraît que dessous sa cornette fatale qu'elle arbore à la messe avec tant de rigueur, cette petite sœur cache, c'est un scandale, une queue de cheval et des accroche-cœurs. Et les enfants de cœur s'agitent dans les stalles. Il paraît que dessous son gros habit de bure, elle porte coquettement des bas de soie, veston, frivolité.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et Débats du jour qui commence. Idéaux et Débats, c'est la première émission de l'année, et avec un grand plaisir, nous retrouverons Valérie Zenati pour un ouvrage qui est paru aux éditions de l'Olivier et qui s'intitule « Qui vive ?». C'est un livre absolument excellent. Et en deuxième partie d'émission, ce sera la première chronique de l'année de Gérard Guégan, avec au programme aujourd'hui un ouvrage qu'on a particulièrement aimé aussi, puisqu'il s'agit du dernier livre d'Olivier Rollin, qui s'intitule « Jusqu'à ce que mort s'en suive » et qui est paru aux éditions Gallimard. Et il parlera également du livre de Judith Viard. Voilà pour le programme de cette émission. Il y a beaucoup de bons livres en cette rentrée. Et on commence tout de suite par un de mes coups de cœur, Valérie Zenati, « Qui vive ?» aux éditions de l'Olivier. C'est toujours toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est Idéo et Débat, avec le grand, grand plaisir de retrouver Valérie Zenati pour un nouveau livre qui est paru aux éditions de l'Olivier, Grande Fidélité. Et ce livre s'intitule « Qui vive ?». Alors moi, j'ai adoré ce livre. Je dois dire qu'il m'a vraiment porté au cours d'un voyage en train. Et je trouve qu'effectivement, lire ce livre dans le train, ça va très bien. Parce que on est dans un univers et on est vraiment dans une bulle de lecture. Et c'est vraiment particulier. Alors merci Valérie Zenati d'avoir accepté cet entretien.
Merci à vous pour l'invitation.
On se retrouve de livre en livre, mais celui-là est différent et je pense qu'on va être amené à en parler. Mais avant d'aborder le livre en lui-même, il faut dire un mot quand même de ce titre, Qui vive, qui est quand même très, très fort.
Alors ce titre s'est imposé à moi vers la fin de l'écriture. Parfois un titre est initial, parfois il se dévoile et il met du temps à se dévoiler. Et il y a eu un moment où, donc voilà, le livre a traversé plusieurs étapes d'écriture et plusieurs titres aussi. Et il y a un moment où quelque chose s'est stabilisé et où j'ai su que c'était celui-ci, parce que j'aime beaucoup les titres dans lesquels je peux moi-même donner plusieurs interprétations. Mmh. Et donc là, il y a bien sûr l'état du qui-vive, être sur le qui-vive, qui est l'état de Mathilde, l'héroïne, je crois, du début et à la fin.
Enfin, bien sûr.
Il y a aussi un écho à cette prière qui est dite par les Juifs à Kippour et qui est reprise par Leonard Cohen dans une chanson et qui interroge en quelque sorte qui vivra, qui mourra. Mmh. Et puis il y a aussi l'interprétation plus ancienne, qui vive, c'est qui va là,
oui.
Et qui est là. Et je pense que c'est aussi une des questions de Mathilde, de savoir qui sont ses prochains, qui sont ses contemporains, qui sont les gens, oui, qui vivent sur Terre. Alors elle ne peut pas tous les connaître, même si je crois qu'elle en rêverait, mais qui a-t-il en face ?
Alors, c'est un chemin qu'elle va faire, mais qui ne commence pas tout de suite, parce que le livre s'ouvre à un moment très précis. Vous évoquiez Leonard Cohen, et Leonard Cohen est un des personnages de ce livre, il faut le dire, et je m'en réjouis. Et le livre commence le jour où elle reçoit sur son téléphone la notification annonçant le décès de Leonard Cohen, qui est un jour qui nous a tous rendus tristes. Et le livre commence là.
Oui, il commence par cette alerte vers 5h du matin et par la sidération que Mathilde éprouve et qui est double parce que d'une part, oui, elle aussi est attachée à Leonard Cohen et peut-être même et certainement même plus qu'elle ne l'imagine. Mm. C'est-à-dire que comme souvent, elle découvre peut-être l'ampleur de l'attachement qu'elle a à ce poète, chanteur, au moment où il disparaît. Et aussi parce que ça rencontre un événement qu'elle estime à ce moment-là aussi sidérant.
C'est l'élection.
C'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc nous sommes en 2016. Et c'est le passage inaugural du livre parce que Leonard Cohen va revenir par la suite. Et j'ai saisi Mathilde à cet endroit-là du temps par l'annonce de la mort de Leonard Cohen et l'élection de Donald Trump. Parce que, d'une certaine manière, ça me donnait la tonalité, peut-être. Je ne sais pas si c'est exactement la tonalité, mais ça me donnait quelque chose du fil d'équilibriste sur lequel Mathilde se trouve, qui est celui de la conscience aiguë que la vie, c'est en même temps une chanson de Leonard Cohen et l'accession d'un homme brutal au pouvoir. Et qu'il y a ces deux pans qui sont tout autant la réalité et qui paraissent être à l'opposé. Et l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'a pas d'incidence sur l'autre. Mais ce sont comme deux tableaux, en fait, de ce que peut être, c'est un diptyque, de ce que peut être la réalité humaine sur Terre.
Et j'ai immédiatement en tête la chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Who by Fire.
Évidemment, voilà. Évidemment, oui, tout à fait. C'est dans cette chanson d'ailleurs, enfin, cette chanson est elle-même l'émanation de la prière de Kippour.
Tout à fait.
Oui.
Alors, Il y a effectivement le fait que cohabitent des événements aux tonalités très très différentes, mais Mathilde est professeure d'histoire, elle a un rapport à l'histoire très particulier, et on a l'impression qu'à partir du moment où ces deux événements arrivent de manière simultanée, et ensuite il va y avoir le Covid qui va se surajouter, en fait, va se produire quelque chose de très particulier, qu'évoque aussi Léonard Cohen, et c'est ce jeu de miroir permanent qui m'a intéressée, c'est de dire que pour arriver à avancer, il faut qu'il y ait en quelque sorte un accord entre les humains et le temps. Et avec tous ces événements, on va s'apercevoir que Mathilde va être désaccordée.
Exactement.
Et pour moi, ça a été quelque chose de très, très important. Elle va se mettre en route parce que, justement, elle est désaccordée et elle trouve que le monde est désaccordé.
Merci de le dire de cette manière. Parce que, en effet, ce qui se passe, c'est qu'elle a fait un jour de l'histoire une grille de lecture du monde qui lui semblait à la fois rationnelle et claire. Et elle s'est mise en tête de transmettre l'histoire, et donc elle est professeure d'histoire géo, et elle aime son travail, elle aime ses élèves. À partir du moment non seulement les catastrophes, mais tout ce qui est de l'ordre, de l'inattendu et de l'inédit, percute l'actualité et les vies, à une allure de plus en plus rapprochée. Il y a un moment où elle évoque un peu les différentes catastrophes depuis, quelques catastrophes depuis septembre 2001.
Tout à fait.
Et on sent que se sont enchaînés des moments, des dates, qui ont donné le sentiment que plus rien ne serait comme avant. Et pourtant,
on a continué.
Et on continue, voilà. Et il y a cette contradiction entre, il se passe là quelque chose d'inédit, dont notre vision du monde, de la vie est métamorphosée, après le 11 septembre, après les attentats, après ou pendant la pandémie même, et puis ensuite il y a même la guerre en Ukraine, et il y a à chaque fois ce sentiment très sincère de dire on a peut-être perdu notre innocence, on va considérer les choses autrement, et puis le monde ne change pas tant que ça, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup que vous ayez perçu que oui, que ça la désaccorde. Et arrive le moment où elle a le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, elle éprouve son incapacité à faire face à une classe, et à une salle, voilà, à une classe, et à transmettre l'histoire, puisqu'elle n'y comprend plus rien.
The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Pour elle, ce moment de la pandémie notamment, où il y a eu le bouleversement dans les vies quotidiennes le plus inouï depuis peut-être les débuts de l'histoire de l'humanité, à cette échelle-là, et les espoirs peut-être qui s'en sont suivis, les prises de conscience de certains, il y avait quelque chose de l'ordre du bouleversement existentiel qui était très fort, avec une aspiration tout à coup un peu...
Parce que ça change.
Voilà. Une utopie presque qui semblait pouvoir naître de ce moment, et puis elle voit bien que ça retombe, et qu'après cet événement-là, il n'est même pas encore terminé, il y a la guerre.
Il y a la guerre qui arrive, c'est encore pire.
Et c'est encore pire. Et donc, elle le dit elle-même, elle a le sentiment que l'histoire devient aphone. Et là où elle est désaccordée, c'est que ce sont, en premier lieu, ses sens
qui sont touchés.
C'est-à-dire que d'une part, elle a 4 sens sur 5 qui sont décuplés. Et on sent que ça l'empêche même de dormir. C'est l'ouïe, l'écoute,
le toucher.
Alors donc, justement, le goût, l'odorat. Et elle perd le toucher. Elle perd le toucher. Et donc, oui, il y a quelque chose qui est désaccordé. C'est très, voilà, même son médecin n'y comprend rien. Il lui prescrit des examens qu'elle ne fait pas. Et... effectivement, le mouvement va pouvoir s'enclencher quand après ces événements, elle retourne voir une vidéo de Leonard Cohen qu'elle a trouvée sur Internet, et une courte vidéo où on le voit quitter la scène un jour à Jérusalem lors d'un concert en disant « je ne suis pas capable de tricher. » »«
J'ai perdu l'état de grâce. » »«
J'ai perdu l'état de grâce. Ouais. »« J'ai perdu l'état de grâce. Je ne l'ai pas. » Et il est à Jérusalem à ce moment-là, en 1972. Et il dit « C'est terrible qu'une telle chose arrive à Jérusalem. » Et donc, il quitte la scène. Il refuse de tricher. Et c'est guidé par ce refus de tricher et ce désir de trouver quelque chose de l'accord parfait qu'elle va se mettre en route pour, elle aussi, aller à Jérusalem, aller sur les lieux où cela s'est produit. Elle quitte Paris et se met en mouvement.
Alors, avant de partir, il y a quand même d'autres éléments qui vont intervenir, parce qu'elle n'a pas choisi d'enseigner l'histoire et d'aimer l'histoire sans raison. Son parcours est intéressant. Elle a renoncé à Dieu.
Oui.
Pendant un temps, elle s'est réfugiée dans un ABC du savoir-vivre pour essayer de trouver comment vivre, justement. Et la solution autre qu'elle a mis en œuvre, c'est effectivement la connaissance de l'histoire et l'enseignement et la transmission de l'histoire. Oui. Et ce parcours-là est quand même extrêmement important.
Oui, parce qu'elle était dans une famille juive pratiquante et on lui a transmis très tôt, on lui a inculqué que Dieu existait.
Tu comprendras plus tard.
Voilà, exactement. Et il y a ce verset biblique, hein, d'ailleurs, qui dit... Faisons d'abord, agissons d'abord, on comprendra ensuite. Et c'est ce qu'on lui répète. Et donc, il y a cette clé de la réalité qu'on lui a donnée et qu'on donne à beaucoup de gens. C'est-à-dire que toute personne naît dans un système de valeurs, d'explications. Et il y a plusieurs systèmes de valeurs et d'explications. Tout le monde... n'affronte pas les questions de la vie de la même manière. Parfois c'est politique, parfois c'est religieux, parfois c'est social. Et donc là, l'existence de Dieu était une certitude. Et puis il y a un moment où enfant, elle découvre, elle est avec son grand-père et elle regarde un documentaire à la télévision. Elle découvre la destruction, l'entreprise de destruction des Juifs d'Europe par les nazis. Et à ce moment-là, elle a 10-11 ans, elle mène une sorte de combat intérieur entre l'idée que Dieu existe puisqu'on le lui a dit, mais que ce n'est pas possible qu'il ait permis une telle chose. Et à l'issue de ce combat, elle s'adresse à Dieu, elle lui dit « je ne crois plus en toi, je ne te parlerai plus ». Et à partir de là, elle cherche autre chose, parce que peut-être que l'une des questions qui traverse ce livre... Et c'est pour ça que Leonard Cohen n'est pas là par hasard.
Mais oui, c'est ce que j'allais dire, dans un jeu de miroir.
Voilà, dans un jeu de miroir qui va se poursuivre d'une certaine manière
jusqu'au dernier album pour lui.
Exactement. Il y a chez Leonard Cohen aussi ce questionnement incessant sur un Dieu absent. Mais peut-être que le simple fait de dire un Dieu absent, c'est déjà... affronter la question de l'existence de Dieu, ou pas forcément de son existence, mais peut-être de cette aspiration que les hommes ont parfois, ont eu et ont encore, à ce qu'il y ait un grand ordonnateur. Et elle est passée par effectivement différents stades avant de se stabiliser dans l'histoire pour remplacer cette chose énorme qui est Dieu. Et puis l'histoire... n'arrive plus à lui éclairer ce qu'est devenu la vie, pas seulement la sienne, hein, c'est-à-dire une sorte de destin de l'humanité. Et donc, cette question-là, comment vivre, elle va la trimballer avec elle jusqu'en Israël, où il va y avoir une sorte de roadbook, si on peut dire. Au volant d'une voiture, elle va aller d'un endroit à l'autre dans le pays, absolument pas pour faire du tourisme, mais guidée par des intuitions, des hasards, et quelque chose qu'elle a peut-être intégré, parce que l'une des personnes qui m'a accompagnée aussi dans l'écriture de ce livre, c'est le philosophe Vladimir Jankélévitch, que je cite en exergue, et qui est par définition l'un des philosophes du temps et de l'inattendu, à la fois de l'irréversible et de l'inattendu. Et j'ai compris à un moment donné que Mathilde, et c'est ça le mouvement de ce livre, elle est sidérée par la somme additionnée des inattendus auxquels l'humanité a fait face, et elle aussi, comme partie intégrante de cette humanité. Et à un moment donné, elle choisit d'aller vers l'inattendu.
I love you in the morning, I'll keep kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Alors, elle choisit d'aller vers l'inattendu, mais elle va connaître, alors elle connaît les inattendus de l'histoire, mais elle va connaître des inattendus plus intimes aussi.
Oui.
Et je crois que c'est important, parce qu'à partir du moment où il y a ce dérèglement du rapport au temps et à l'écoulement du temps et à l'histoire, j'allais dire que presque la seule personne auprès de qui elle trouve refuge, c'est son grand-père,
oui,
qui lui est dans un état de démence, et donc est hors du temps. Et moi, j'aime beaucoup le fait que ce personnage soit là, soit à la fois dans le présent, dans le passé, dans le futur, dans une confusion totale, et en même temps toujours là pour elle. Et je crois que c'est très, très important. Elle, c'est un très, très beau personnage. Elle va le perdre, malheureusement, mais il va lui laisser quelque chose.
Oui, son grand-père lui laisse quelque chose, ou en tout cas, on trouve quelque chose
dans ses affaires.
Dans ses affaires. Et ce quelque chose, c'est une dizaine de feuillets.
Étonnants.
Qui sont écrits dans une langue qui ne semble pas du tout être celle du grand-père. En tout cas, quand il parle à Mathilde, il a ce langage décousu, il utilise un mot pour un autre. Et ça donne une sorte de poésie chaotique.
Par un personnage totalement inconnu.
Voilà.
Et racontant une histoire très étrange.
Très étrange, qui semble ne, peut-être presque ne rien avoir à faire là, mais c'est parce que c'est le propre même de la surprise, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Et donc, ces pages sont la voix d'un violon qui est fabriqué par un luthier. Et donc on a la voix du violon qui se souvient des multiples arbres qu'il a été. Et puis dans un second temps, il y a la voix du fils du luthier qui a hérité du violon de son père, mais qui n'est pas capable d'en jouer puisqu'il est infirme et qu'il a un bras inerte. Et ces feuillets qui semblent surgir du néant, mais est-ce que les choses peuvent surgir du néant ? Non. Intriguent énormément Mathilde. Et elle n'arrive pas à remonter à la source. Elle ne sait pas pourquoi. La seule chose qu'elle sait, le seul élément qu'elle trouve, c'est que le violon qui est évoqué dans les feuillets existe et que c'était le violon de son grand-père. Donc là, voilà, c'est écrit. Chapuis, Paris. Mais en dehors de ça, et puis aussi, à un moment donné, le grand-père utilise le mot canopée en lui parlant avant de mourir et se demande d'où il sort ce mot, d'où vient ce mot, parce qu'il ne fait pas partie de son lexique. Et dans le texte, il y a aussi ce terme, le mot de canopée. Et donc, ce que ce texte, qui peut être vu comme une... voilà, comme une parabole, comme qui est livré à l'interprétation
de chacun,
et je ne cherche pas du tout à imposer les interprétations. Ça me semble beaucoup plus intéressant que le lecteur interprète lui-même. Il va renforcer chez Mathilde le sentiment que la réalité est une énigme, et mais peut-être comme il s'agit aussi de musique et de transmission, il va aussi la guider sur le chemin pour être de nouveau accordé et pour peut-être être capable de retrouver une place dans la chaîne de la transmission. Voilà.
Oui, il y a ce double mouvement. Il y a le mouvement musical de l'accord musical et puis il y a le mouvement de l'histoire au travers d'un passage de Victor Hugo quand même, qui n'est pas n'importe quel passage.
Bien sûr, parce que le fils du luthier travaille dans une imprimerie à Bruxelles et il travaille sur la première édition des Misérables et il compose la préface rédigée par Victor Hugo à ce moment-là. Et dans cette préface, Victor Hugo semble aussi, lui, évoquer en quelques mots les conditions nécessaires à une bonne vie pour l'humanité. Et comme la question de comment vivre parcourt tout le texte, là aussi, il y a peut-être une piste qui va résonner plus tard.
Alors effectivement, elle va partir. Au départ, elle ne sait pas où elle part. Et je crois que c'est très important de dire qu'elle se contente de se mettre en mouvement.
Oui.
Et elle va aller en Israël, où elle est allée enfant. Et à partir du moment où elle atterrit... Alors déjà, ça commence dans l'avion, parce qu'elle va faire une rencontre qui sera importante. Et elle va arriver, une fois sur place, au bord de la mer, dans un état étrange au niveau sensoriel. Oui. Il y a une espèce encore de grand bouleversement et en même temps de grande jubilation.
Oui. Oui, parce que il y a dans ce mouvement, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé que vous disiez que le train était un bon lieu de lecture pour ce livre, il y a dans ce mouvement quelque chose de nécessaire, parce que autant dans la première partie, on sent que Mathilde est sur le qui-vive parce qu'elle perçoit tout avec beaucoup d'acuité, mais elle semble aussi peut-être à l'arrêt, c'est-à-dire que elle est si percutée par les événements que bon, elle devient insomniaque, il y a quelque chose qui est suspendu. Et dans le mouvement qui est à l'œuvre à ce moment-là, il va y avoir autre chose pour elle, c'est la capacité à dire bon. Puisque tout m'est devenu étranger, alors allons vers ce qui m'est vraiment étranger, et c'est peut-être en regardant ce pays que je ne connais pas, peut-être en découvrant comment les gens vivent, parlent là-bas, que je vais découvrir quelque chose de mes semblables, parce que elle enquête d'une certaine manière, elle enquête sur ses semblables dans la rue, elle écoute les conversations des autres, elle regarde chacun, parfois elle suit des gens parce qu'ils parlent d'une manière qui l'étonne et elle a envie de les écouter. Et donc là où ses sens vont se dérégler de nouveau, dans cette jubilation, c'est en étant en contact avec ce qu'est un pays dans lequel on n'a quasiment jamais mis les pieds. C'est une nouveauté sensorielle permanente. Tout est neuf dans un pays qui n'est pas le sien. Tout attire le regard et ce sont aussi les odeurs et les sons et le mot maison ou immeuble ne correspond plus à la même chose que là où elle vit.
Et la nuit n'est pas la même.
La nuit n'est pas la même. Et donc, cette nouveauté qu'elle ressent de manière très forte dans l'espace, à ce moment-là, va de nouveau bouleverser ses sens et si j'ose dire, peut-être dans le bon sens cette fois.
alors quand vous évoquiez Valérie Zenati, son écoute des autres, qu'on retrouve donc dans Qui vive, ce roman paru aux éditions de l'Olivier, moi, l'image qui me vient, parce qu'à partir du moment où elle est en Israël, moi, j'ai des flashs. Je garde des images de ce qu'elle traverse. Et ça m'a fait penser... aux ailes du désir de Wim Wenders, avec ce personnage qui se balade et qui entend les pensées des différentes personnes qu'il croise, cet ange qui est là et qui écoute tout le monde, et parfois ce contact qui se fait. Et elle est un peu comme ça, en fait. Et à partir du moment où elle arrive, où elle va, donc le fil rouge, quand même, ça va encore être Leonard Cohen.
Oui.
Parce que la première personne avec qui elle va essayer de renouer contact, c'est un de ses cousins. C'est lui qui lui avait fait écouter Leonard Cohen, et elle va chercher à le rencontrer. Et là, c'était intéressant aussi parce que elle l'a connu alors qu'il était jeune. Elle était un peu séduite par lui d'ailleurs, alors qu'elle était une petite jeune fille adolescente, et elle le retrouve qui est maintenant retraité. Et donc là aussi, on a le temps, les années se percutent. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir comment vous jouez avec, vous le pliez, vous le dépliez, vous le ramenez dans une unité quand même qui existe.
Merci, parce que ça a été... merci pour la comparaison avec les ailes du désir, et aussi d'avoir senti... la façon dont le temps s'était pour moi mis en mouvement dans des tempos très différents, et j'avais vraiment le sentiment parfois que c'était un accordéon qui se fermait, parfois c'est un accordéon qui s'ouvre, et il y a même cette image de l'accordéon à un moment donné plus tard, mais pour moi le temps était répondait d'une certaine manière à plusieurs images possibles, parce que le temps, ce sont des images en réalité. Mm. C'est-à-dire que ce qu'on contient en nous du temps, ce sont des flashs, ce sont des images. Où peut-on contenir le temps ailleurs que dans ces flashs-là?
Oui, et puis on n'a pas une mémoire continue de tous les événements. On a des instants comme ça, des instantanés.
Voilà, on n'a absolument pas de mémoire continue. Et là, il y a quelque chose qui s'est organisé autour de Mathilde, et qui a permis que se mêle à la fois sa mémoire. Elle est même plus jeune que... Elle est plus jeune que ça, parce que c'est vrai qu'elle lui tourne autour, mais elle n'a que 6 ans,
oui,
à ce moment-là.
Vrai, c'est une petite fille.
Mais elle tourne autour comme une petite fille peut tourner autour d'un grand garçon de 24 ans, parce qu'il n'est pas tout à fait comme les adultes, et voilà, pour attirer son attention. Mais elle va retrouver des choses très intimes dans ce temps, et va se déployer aussi le temps de l'histoire, puisque ce qui ressurgit à l'aune de cette rencontre, ça va être la guerre de Kippour, donc 50 ans, quasiment 50 ans plus tôt. Et donc c'est son temps intime et le temps de l'histoire qui, à partir de ce moment-là, vont passer comme, elle le dit, sur une sorte de boule à facettes, où parfois les cases scintillent, parfois elles s'éteignent. Et j'ai aimé écrire ce mouvement, parce que je sentais que ça permettait à Mathilde à la fois de lâcher prise sur cette question de l'énigme, du chaos du monde, parce que dans un documentaire qu'elle évoque dans la première partie, Leonard Cohen dit à un moment donné: il ne faut pas avoir l'arrogance de résoudre le chaos du monde, mais il faut quand même chercher l'état de grâce au milieu de lui et au milieu de ce chaos. Et donc elle perd peut-être dans ce mouvement la tentation d'essayer de comprendre le chaos du monde, et elle retrouve quelque chose qui est beaucoup plus qui est devant ses yeux et en elle, et qui est le rapport au temps et le rapport à l'histoire et si on peut dire à ces flashs intimes qui nous portent.
Oui, moi, l'impression que j'ai eue dans cette partie, c'est que cette histoire qu'elle connaissait intellectuellement, entre guillemets, de par sa connaissance de professeur et de sa connaissance aussi personnelle de l'histoire familiale, elle va la vivre physiquement sur place.
Oui.
Sensoriellement.
Oui, oui, oui. De toute façon, le livre a existé pour moi à partir du moment où j'ai senti le corps de Mathilde. Et parce que c'est un personnage qui est venu à moi, on va dire, il y a environ 3 ans, et qui est vraiment venu à moi. Parce que lorsque je n'écris pas, je dis souvent j'écris quand même et j'examine voilà, il y a des personnages, des idées, des sensations qui me lancent vers des pistes possibles. Et puis, il faut vraiment qu'un personnage insiste pour exister. Et là, Mathilde, là aussi, j'aime quand vous dites qu'il y a des choses qu'elle connaissait intellectuellement, mais là, elle va les vivre avec son corps. Et en fait, ce roman, c'est le roman d'une femme qui n'aborde pas les choses de manière intellectuelle du tout. Tout passe par son corps et les échos que son corps lui transmet. Et quand j'ai senti le corps de Mathilde, et que j'ai décidé de traverser cette histoire avec elle en étant en permanence dans son corps, j'avais tout, en fait. Tout était là, il me suffisait de regarder avec elle et d'écouter. Et donc, en effet, à partir de la rencontre avec ce cousin, tout ce qu'elle va vivre sera guidé par son corps, mais aussi par la façon dont la pensée naît des mouvements du corps et de ce que le corps perçoit.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. I was selling holy trinkets, I was dressing kinda sharp, had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angels got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little what happens to the heart. Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadowlark, just a filthy beggar guessing what happens to the heart. I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
Alors, on va pas dévoiler tout ce qu'elle va vivre, parce que le but, d'une certaine manière, c'est de l'amener face au chaos du monde, et elle se retrouvera face au chaos du monde, d'une certaine manière. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette incarnation de l'histoire qu'elle va traverser, elle va la traverser aussi grâce à la rencontre avec différents personnages. C'est eux qui vont lui permettre aussi de franchir des étapes. Et il y a, j'allais dire, un petit côté initiatique quand même dans ce parcours de Mathilde.
Oui, c'est ce que m'a dit mon éditeur quand il a lu le texte. Il y a quelque chose d'initiatique, mais parce que j'ai le sentiment qu'en réalité, on peut évidemment être initié à n'importe quel âge, hein, elle a un peu plus de 50 ans, et que l'initiation, c'est pas tant quelque chose qui nous vient de l'extérieur et qui nous est donné, mais c'est quelque chose qu'on est disposé à recevoir.
Ouais, ouvre la porte.
Voilà, on ouvre la porte. Et Mathilde, dans ce voyage où elle est armée uniquement de ses yeux grands ouverts et de ses oreilles tendues et de ses perceptions poussées à l'extrême, elle est simplement, elle continue d'être attentive à tout, sauf que comme il y a de la nouveauté, elle l'est encore plus, et tout la frappe, la façon dont les gens parlent et ce qu'ils disent de leur vie, de leur vision du monde, de leur certitude. Alors ça, il faut dire aussi que c'est réellement, c'est très israélien. Alors moi, je connais Israël beaucoup mieux que Mathilde. J'y ai vécu pendant 8 ans, j'y retourne régulièrement. Je traduis des auteurs israéliens, surtout Aaron Appelfeld. Et en fait, tous ceux qui connaissent Israël et qui y ont passé un peu de temps savent que, sans faire de généralité, mais il y a en Israël un nombre très important de gens qui sont capables de partir dans des logorées, quasiment, où ils vous expliquent le monde et leur vision, qui est toujours, évidemment, la plus juste à leurs yeux. Comme si chacun là-bas avait besoin d'être presque barricadé, pas forcément barricadé, mais comme si chacun avait eu besoin de créer sa propre forteresse explicative.
C'est une espèce de colonne vertébrale.
Oui. Et donc elle est à l'écoute de ça. Elle n'a pas l'habitude, et d'ailleurs, durant tout ce voyage, je crois qu'on ne l'entend pas beaucoup parler, on l'entend penser, mais elle écoute. Et à force d'écouter, il y a quelque chose qui se dessine, et c'est ce dessin qui, en cours, qu'elle pourra peut-être interpréter plus tard, qui la guide et qui guide, c'est pas jusqu'à la fin.
Alors, juste une évocation parmi ces personnages, parce que je les trouve très très beaux, c'est ce club des croyants mécréants.
Oui. Alors, elle a rencontré effectivement dans l'avion
une jeune femme.
Une jeune femme, au fait, tatouée, cheveux ras, piercing, avec deux tatouages un peu étonnants. L'un qui, disons, je suis l'arbre de la connaissance, et l'autre sur l'autre bras, citant un verset de la Bible, justice, 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 tu poursuivras. Et Mathilde a eu un petit échange avec elle, et à sa grande surprise, elle a découvert donc dans l'avion que cette jeune fille était née dans un milieu ultra-orthodoxe et avait tout lâché à un moment donné, assez jeune. Et donc, elle lui dit qu'elle n'a quand même pas renoncé à croire en quelque chose, et elle retrouve chaque semaine des jeunes comme elle qui ont décidé d'abandonner la foi en Dieu et qui cherchent autre chose. Et donc, c'est ce fameux club des mécréants croyants. Et donc, Mathilde, au moment où elle arrive à Jérusalem, il y a un moment où elle se prend la ville de plein fouet. Mmh. Et puis, elle appelle cette jeune fille qui lui a donné son numéro et elle se rend dans ce club. Et là, peut-être pour la première fois depuis longtemps, elle se sent à sa place. À sa place dans le sens où elle se sent portée par ce groupe qui n'a pas renoncé à vouloir croire en quelque chose, mais pas en Dieu. Et non seulement elle est portée par leurs questions, mais elle est aussi aimantée par l'invité qui est là ce soir-là et qui est une metteuse en scène. Et pour la petite histoire, cette metteuse en scène, c'est le personnage de mon premier roman, En retard pour la guerre, qui a ressurgi ici et qui met en scène une pièce qui est tout sauf anodine. Et c'est peut-être la dernière pièce du puzzle. Donc,
Il fallait en arriver là.
Mais alors, il fallait en arriver là. Et en même temps, moi, j'ai pas eu le sentiment de pousser Mathilde vers ce moment, mais j'ai plus eu l'impression qu'en faisant avec ce personnage une sorte de pacte de l'inattendu, quelque chose allait se produire à la fin.
Alors, on a également la même sensation à la lecture, ça je peux vous dire que c'est particulièrement réussi, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va, et c'est un vrai bonheur de perdre pied dans la lecture. Il y a tellement de romans qui sont assez convenus pour qu'on sache quasiment depuis le premier tiers ce qui va se passer ensuite, que là, oh, ça fait du bien d'être en roue libre.
Alors ça me fait extrêmement plaisir aussi, parce que je crois que, vous savez, je publie à peu près tous les 4-5 ans, donc même si je ne chôme pas entre deux livres, mais moi j'ai le sentiment qu'à chaque livre, j'interroge pour moi ce que peut être l'écriture et le roman à ce moment de mon existence et à ce moment du temps. Et qui vivent, vous disiez qu'il est différent des autres, qui vivent dans sa forme inattendue et dans sa règle de l'inattendu, a été ma réponse peut-être à l'inattendu du monde. Et donc il fallait aussi défaire peut-être un système un peu daté, un peu périmé pour moi, hein. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais où un roman aurait ses bases, ses fondations, ses articulations, ses questions, page 30, et ses réponses, page 70. Et là, j'ai voulu, j'ai cherché vraiment à briser quelque chose de cette structure peut-être attendue. Donc, si le lecteur suit ce mouvement-là, ça me comble.
Oui, tout à fait. Et puis, on reste avec nos questions et c'est très bien.
Merci.
Ça s'appelle « Qui vive ?». C'est paru aux éditions de l'Olivier. C'est de Valérie Zenati et c'est vraiment un bonheur de lecture. Merci beaucoup, Valérie.
Merci à vous.
nuclear mass on the Archelao.
C'était donc Valérie Zenati qui nous parlait de Qui vive, paru aux éditions de l'Olivier, que je vous recommande au plus haut point. Et tout de suite, nous retrouvons Gérard Guégan pour sa première chronique de l'année. Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz, et on retrouve Gérard Guégan pour sa première chronique de l'année, où il va nous parler de deux ouvrages, un ouvrage de Judith Viard et le dernier livre d'Olivier Rollin. On commence tout de suite par lequel ? Tu commences par Judith Viard ?
Judith Viard. Voilà. Alors, Judith Viard, au fond, plus j'y réfléchis, plus je le reprends, je lis par-ci, par-là, des bouts, j'ai l'impression de lire Le Retour de Zazie, qui a été mon personnage préféré quand j'avais 18 ans, 17, 18 ans, la fameuse exclamation « mon cul », à tout bout de champ, ben, je l'avais adopté comme tous les lecteurs de Queneau et les spectateurs du film qui n'étaient pas aussi bons que le livre, mais quand même. Donc c'est là, simplement, Zazie se promettait de devenir institutrice quand elle serait grande, et elle disait « c'est pour comme ça je pourrais faire chier les mômes ». Je me souviens aussi de ça. Et ben là, c'est pas ça. C'est Zazie a grandi, mais c'est eux les maîtres de la classe, quoi. Voilà. Ils sont en classe et ils sont pas devenus instituteurs, ils sont restés élèves. Et c'est pour ça que c'est à la fois un livre qui aurait pu être de la sociologie, comme une sorte de romanesque sociologique où on aurait compris que les malheureux sont là, les autres sont là, etc., etc. C'est pas ça. C'est une comédie, son livre, aussi bizarre que ce soit. Parce que justement, les Asies ont pris le pouvoir et que les Asies ont beaucoup de talent, mais au pluriel surtout. Et donc, c'est très drôle. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, le plus simple, c'est de donner un extrait, page 43. C'est un dialogue donc entre, on va dire, Zazie numéro 1 et le professeur qui ne peut être que Judith Viard, qui commence par dire « Vous savez pourquoi Abdelkarim n'est pas là ? Il n'est pas réveillé, madame. Et vous, pourquoi étiez-vous en retard ce matin, Romain ? Parce que je ne me suis pas réveillé non plus. » Et Judith dit, ben, je vais finir par ne plus me réveiller, moi non plus. Vous pouvez pas, vous êtes obligé de venir, c'est vous la prof. Eh bien, je vais finir par ne plus venir du tout. Vous aurez plus de métier? J'en trouverai un. Ah bon? Et quoi? Hôtesse de bar à ongles. Ouais. Ça me paraît tout à fait significatif de l'époque, parce que les bars à ongles, j'en vois partout pousser dans la ville où je vis. Et que donc ces élèves-là, j'ai l'impression de revenir en arrière. Il y a cette insolence que j'ai connue et qui apparemment a pris le pouvoir. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que c'est fait pour ça, les élèves, c'est fait pour être insolents. Ils ont tout le temps de devenir des élèves sérieux et travailleurs. Bon, alors, à part ça, et maintenant plutôt...
Alors, un mot quand même pour préciser qui est l'éditeur du livre de Judith Viard, parce que moi, je ne l'ai pas reçu, le livre. Je l'ai demandé, on m'a dit oui, et je ne l'ai jamais reçu. Alors, dis quand même quel est l'éditeur.
Il faut fusiller dans ce cas. Donc, c'est les éditions Louise Bottu.
Oui.
Et c'est dans le sud-ouest, une maison dans le sud-ouest. Effectivement, cela dit, je ne crois pas qu'il n'y a pas que toi qui ne le reçois pas. Il y a beaucoup de libraires aussi qui ne le reçoivent pas. Là où je vis, il y a au moins deux très bons libraires et a priori, ils ne l'ont pas eu. Mais bon. Il faut se méfier des confidences aussi de libraires et tout ça. On ne sait plus qui a fait quoi. Bon, c'est un classique pour moi qui ai fait de l'édition pendant une dizaine d'années. J'ai déjà connu ça. Alors maintenant,
on va commencer,
si tu permets, à moins que tu aies quelque chose à dire
non,
sur...
Non, on va passer au Rollin, bien sûr.
Donc, oui, je voulais commencer par une confidence, parce que ça me permet d'en finir avec quelque chose que je porte en moi et que je laisserai tomber, et que je laissais tomber depuis que j'ai lu le Rollin. J'ai longtemps, mais vraiment, ça remonte à une vingtaine d'années, eu le désir de poursuivre, de donner une suite au Duel, le roman très court de Joseph Conrad, et j'avais commencé à l'écrire et ça ressemblait un tout petit peu à ce que va faire de son côté, à ce qu'a fait de son côté Olivier Rollin. En tout cas, mes deux personnages qui sont, comme chacun le sait, des hussards qui commencent à se battre en duel dès le Premier Empire, et qui, je voulais qu'en 1830, ils ont encore l'âge d'être debout et de marcher et de se tenir droit, l'un étant devenu royaliste et l'autre étant resté bonapartiste, et bien, à l'occasion de la révolution de 1830, il y a de nouveau un duel entre eux. Voilà ce que je voulais faire. Or, quand je lis le Rollin, je retrouve le principe des deux, c'est-à-dire oui. Il y a là deux duellistes, mais ce ne sont pas des duellistes, ce sont des adversaires politiques qui se détestent et qui détestent chacun la religion de l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence l'un est un partisan de Ledru-Rollin, donc on dirait que c'est une sorte de PS, de centriste, de gauche, et c'est une sorte d'armoire à glace, et de l'autre côté il y a un petit mec, mais tout aussi nerveux et très rapide, et qui est un blanquiste, un disciple de Blanqui, et qui vont petit à petit se détester, et ça va finir en Angleterre, à Londres, où ils seront l'un et l'autre, puisqu'ils sont devenus proscrits à cause du coup d'État de Napoléon III, qui est à l'époque Napoléon tout court, le prince Napoléon, et ils vont se battre en duel. Voilà. Et il y aura un mort, évidemment, je laisse deviner qui mourra, mais ça ira jusqu'à la mort de l'autre aussi, disons-le simplement. Et ce qui est formidable dans le livre d'Olivier Rollin, c'est que ce qu'on est pris à la fois dans l'histoire donc des années du 19e siècle, avec l'arrière-plan, il y a les barricades qui font rêver d'ailleurs Rollin, dont une devait s'élever sur deux étages.
Oui, ça c'est passionnant, je me permets de t'interrompre, parce qu'il reprend la description de Victor Hugo, et il va dans les rues de Paris et il va essayer de chercher où était vraiment la barricade. Et il est là en train de dire, oui, non, mais là, c'est pas possible, elle ne pouvait pas être là, sinon on n'aurait pas vu. Et c'est absolument génial, cette partie-là.
Ah oui, non, c'est en ça que justement, c'est pas vraiment un roman pour moi, c'est presque une autobiographie, parce qu'au fond, c'est bien lui qui marche dans Paris, c'est bien lui qui essaie de repérer les choses. Et c'est bien lui qui, lorsqu'il passe devant le petit Cambodge,
oui.
Et qui signale que c'était là et que c'est là que ce soit un soir de
novembre
2015, il y a eu un massacre, le premier massacre, le début de la nuit
du Bataclan.
Du massacre. Et donc il signale ça de la même façon que d'un seul coup, il explique pourquoi au fond. Ces personnages qui sont pas des personnages de romans, sont des personnages qui ont existé, ces deux adversaires, lui rappellent aussi son propre passé. Et il cite là-dessus des choses qui sont assez formidables. Et je voudrais les retrouver,
Oui, non, mais il n'y a pas de problème, parce que c'est toute la question de l'engagement au travers de ce personnage de Barthélemy qui va aller au bagne de Brest, qui va en sortir et qui va être il y a toute une histoire. Ce personnage est un personnage extrêmement fort.
Ah oui, absolument, mais l'autre aussi d'ailleurs.
Oui, d'une autre manière.
Et au fond, ça fait penser, pour peu que, puisque tout, il nous invite lui-même, Olivier Rollin, à comparer nos passés respectifs avec le passé de ces personnages. Moi, c'est tout à fait ce que, et les blanquistes, pour moi, c'est les bordiguistes. C'est un sectarisme total et insupportable. Et le grand gros costaud, c'est tout aussi sectaire, mais c'est l'autre sectarisme, c'est l'OCI, c'est les trotskistes de l'OCI, qui étaient pareils,
ouais.
Je veux dire, qui faisaient des arts martiaux pour se préparer à la guerre et qui n'ont jamais, par bonheur, se sont retrouvés dans une guerre civile, parce que c'est pas avec les arts martiaux qu'ils auraient emporté la victoire. Mais bon, donc il y a tout le temps ça, voilà, je veux dire, tout le temps on est dans on se demande, et j'ai prononcé tout à l'heure le mot de autobiographie, moi j'ai pensé, puisque je le sens tout le temps présent.
Oui, tout à fait.
Il est tout le temps là. Et je cherche, j'ai fait une note quelque part, et évidemment, comme d'habitude, quand on fait des notes, on les retrouve jamais. Mais, et où il parle de Roger Stéphane et du portrait de l'aventurier. Et en disant qu'au fond, il était partagé dans ses 20 ans entre l'aventurier et le militant. Et quand on connaît son histoire politique personnelle, qu'on laissera de côté ici, c'est pas le
propos.
Mais oui, on comprend ça, voilà. Donc pour moi, c'est un livre. Je me suis, vulgairement, régalé. Voilà. J'ai lu ça avec un plaisir intense. D'abord, effectivement, les rues de Paris et tout ça, ça me passionne, moi aussi. L'histoire de ces deux types qui, comme ça, sur pas grand-chose, se monte une histoire, et se monte une histoire qui va jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est jusqu'à ce que la mort s'ensuive, le titre de ce livre. Oui. C'est un livre tout à fait remarquable. Et je crois que c'est peut-être même le livre le plus réussi d'Olivier Rollin.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un coudit, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sont sous périmes rêveurs. Un couplet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. L'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sort en don ne sait pas où. Toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons, chair à canon de la bataille, toujours il succombe son cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il faut donner la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille. Tant de trembles rondis depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
et puis il y a la figure de Hugo aussi derrière.
Il y a la figure de Hugo qui, moi, m'agace un tout petit peu, parce que là, je pense que le militant qu'il a été, Rollin, se laisse un tout petit peu abuser. Il essaie de prendre ses distances en disant peut-être que quand même Hugo...
Il s'est trompé, oui.
Exagère son importance et tout ça. Mais moi, je n'oublie pas, pour l'avoir édité, le texte de Lafargue, qui s'appelle « La légende de Victor Hugo » et qui est paru quelques semaines après les obsèques de Hugo, mm-hmm. Et qui est un texte d'une rare violence, et qui avait eu l'imprimature d'Engels, qui avait trouvé ça remarquable. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, quand on pouvait encore trouver ces textes avant qu'on les réédite, nous, c'est-à-dire dans les années, fin des années 50-60, quand on lisait la correspondance d'Engels publiée par les communistes, le PCF, on lisait que, sans doute là-dessus, égaré par les conseils de je ne sais qui, Engels aurait mieux fait de se taire, parce qu'au fond, Hugo, c'est quand même très important. Donc là, on voit aussi, c'est assez drôle, c'est assez drôle. C'est un très beau texte. S'il ne l'a pas lu, si tu l'as pas lu, tu devrais le lire. La légende de Victor Hugo. Un très beau texte, et un texte absolument pas mensonger, mais sans doute un tout petit peu inventé, là aussi. Par Lafargue, c'est pas tout, mais bon, il a trouvé les comptes, si je puis dire, c'est-à-dire l'intérêt de Hugo pour l'argent, et ça fait partie des fleurs qu'on jette sur la tombe. Je peux vous dire que là, c'est des fleurs amères, parce que on découvre que donc, par exemple, tout ça a été publié dans les journaux de l'époque. La succession liquidée de Victor Hugo s'élève approximativement à la somme de 5 millions de francs.
Ouais.
Et ça continue comme ça. Donc, parce qu'il avait laissé 50 000 francs à distribuer aux pauvres de Paris dans son testament. Et donc Lafargue dit, donner 50 000 francs aux pauvres, même après sa mort, dépassait ce que pouvait être l'âme généreuse et charitable de Victor Hugo. Au moment de signer, donc le signer le paragraphe des testaments, le cœur lui manqua et il ne signa pas. Donc les 50 000 francs n'ont sans doute jamais été distribués. Parce que le notaire, quand il regarde, il n'y a pas la signature. Donc ça y est, ça ne vaut plus rien, le document ne vaut plus rien. Voilà. Bon, je me suis écarté du livre.
C'est pas grave.
Et je suis absolument fou de rage contre moi, même si peut-être ça se sent pas dans ma voix. Je ne retrouve pas le passage que vous voulez citer. Voilà.
Ah bah,
mais quand même citer un autre passage que j'aime beaucoup et qui est aussi très révélateur, très, très conforme à qui est Olivier Rollin, qui est donc page 23. Je vais donc le trouver plus facilement parce que j'ai noté le numéro de la page. Voilà, d'ailleurs, il se réfère là aussi à Chose vue, qui est un livre formidable, hein, de Victor Hugo.
Oui. Bon,
je suis partagé. Moi, il y a Chose de Hugo que j'adore, et d'autres moins. Mais ça, c'est dans le climat de l'époque, on comprend mieux en lisant donc Lafargue. Si j'ai appelé Lafargue, si j'ai cité Lafargue, c'est pour qu'on comprenne mieux le pourquoi d'une dispute telle que celle que Rollin va raconter a pu se produire. Je veux dire, pour un oui ou pour un non, les choses montaient, les militants et les adhérents et les ralliés à telle ou telle tendance de la Révolution s'étripaient volontiers. On retrouvera ça en Espagne durant la guerre civile, etc., etc. Donc là, il parle d'une barricade dans Paris. Et le chef de la barricade, voilà, la jeune fille qui est le chef de la barricade tuée, relève son drapeau et le brandit face aux gardes nationaux, de point ouvre les guillemets, les cheveux épars, les bras nus, vêtus d'une robe de couleur éclatante, elle semble défier la mort. Fin de citation. Les gardes nationaux hésitent, elle les provoque, ils tirent, elle tombe. Une autre femme la remplace qui est tuée à son tour. Victor Hugo reprend et complique l'histoire dans un texte que recueilleront les choses vues. Les deux filles sont des filles publiques, belles l'une et l'autre, qui, levant leur robe, crient aux gardes nationaux « Lâche, tirer, si vous l'osez, sur le ventre d'une femme. L'histoire qui n'a pas laissé complètement s'effacer le nom de Pauline Pompon a oublié celui de ses héroïnes. Voilà.
Et ça, c'est très beau aussi.
Et c'est très, très beau. C'était un très beau livre.
Oui.
Et surtout, c'est un livre qui donne envie d'en écrire d'autres. C'est pour ça que je rappelais l'histoire du duel comme si l'histoire était terminée pour moi. Elle n'est toujours pas terminée. J'y pense tous les jours au duel. Quelque chose qui me... Je veux dire, parce que j'ai lu un texte de Dumas. Dumas apparaît très peu dans le livre de Rollin. Voilà, c'est plutôt Hugo qui a la première place, et ça se comprend. Mais Rollin Dumas en 1830, il est à Villers-Cotterêts et il monte dans sa voiture et il entasse des armes et il fonce vers Paris parce que il veut participer à la révolution de 1830 et il a écrit un texte qui s'appelle Ma révolution de 1830 et qui est un court texte. Il l'a pas écrit d'ailleurs spécialement, on l'a détaché du reste de ses mémoires pour en faire un opuscule. Et c'est très très bien quand on lit ça. Donc on se dit, voilà, les deux colonels de hussards qui ont passé leur vie à se taper dessus, à se tirer dessus, à se prendre des coups d'épée, de sabre, etc., etc. Bon, voilà, ben, ils sont... Voilà, c'est terminé.
On essayera de recevoir Olivier Rollin pour parler avec lui de Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est paru chez Gallimard et c'est vraiment un des excellents livres de la rentrée. Merci à toi en tout cas.
Oui, merci à vous. À toi.
À bientôt.
À bientôt.
C'est la fin d'Idéo et Débat. Je vous recommande donc de lire « Qui vive » de Valérie Zenati, paru aux éditions de l'Olivier, ainsi que les ouvrages évoqués par Gérard Guégan. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec plein de choses au programme dans les émissions à venir. On retrouvera notre ami Patrick Péchereau pour un très beau roman qu'il a écrit sur Xavier Graal aux éditions Bruno Doucet. On retrouvera des premiers romans également, parce qu'on aime bien ça dans cette émission. Et puis tout un tas de bonnes choses. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète. Je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Pas vrai, maître?
Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Radio Libertaire 89.4. Nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Ça paraît déjà loin et pourtant ce fut une expérience extraordinaire. Au début de l'épidémie de Covid, du 17 mars au 10 mai 2000, l'État français a organisé la suspension totale de la liberté de circuler et instauré un instrument de contrôle policier inédit, l'attestation.